Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bonjour à tous, bienvenue à l'écoute de Métropolez-vous pour un nouveau numéro de votre émission consacrée à l'actualité de la métropole toulousaine. Deux thématiques parmi d'autres y sont souvent abordées, celles de l'urbanisme et du patrimoine. Et ces deux domaines ont bien sûr des liens. Le patrimoine est souvent urbain et l'on n'urbanise pas sans tenir compte du patrimoine, sans se soucier de sa préservation et de sa mise en valeur. Ces questions sont au centre d'un document que nous avons déjà évoqué à Métropolez-vous, le plan de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine remarquable. Nous lui avions consacré un numéro alors qu'il était en cours d'élaboration, travail de longue haleine qui a abouti récemment. Une conférence de presse à l'initiative de Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole, l'a annoncé officiellement la semaine dernière. Le PSMV va entrer en vigueur en 2025. C'est une information très importante parce qu'elle redéfinit les règles de construction dans le centre historique de Toulouse et parce qu'elle implique également une nouvelle donne pour les propriétaires de maisons ou d'immeubles anciens. Nous allons vous présenter ce document et tout ce qu'il change à Toulouse lors de l'émission qui va suivre. Et pour vous présenter le plan de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine remarquable, j'ai le plaisir de recevoir une nouvelle fois à Métropolez-vous Annette Léniaud, vice-présidente de Toulouse Métropole, chargée de l'urbanisme et des projets urbains, également adjointe au maire de Toulouse. Bonjour madame et merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour.
On va tout de suite préciser ce qu'on appelle le site patrimonial remarquable à Toulouse et ce qu'est son plan de sauvegarde et de mise en valeur. Ça va aussi permettre à nos auditeurs de comprendre pourquoi vous êtes l'élue métropolitaine en charge de ce document.
Alors le SPR, puisque aujourd'hui ça s'appelle SPR, le terme le plus connu est le secteur sauvegardé. Pendant de nombreuses années, on parlait de secteur sauvegardé. Alors c'est un périmètre qui a été identifié en partenariat avec l'État, qui reconnaît finalement l'intérêt que l'on peut avoir à s'intéresser à son contenu parce qu'il est d'une qualité patrimoniale exceptionnelle. Donc SPR ou ex-secteur sauvegardé a été défini donc avec l'État en 1986, donc ça n'est pas récent. C'est un périmètre qui est très très grand, enfin un périmètre et une surface consacrée à cela de 250 hectares, quelque chose comme ça.
256 hectares,
qui en fait l'un des plus grands de France et qui a comme objectif de préserver, d'abord de connaître, de mieux connaître le patrimoine qui est inclus dans ce périmètre pour mieux valoriser, éventuellement mieux protéger et permettre, puisque c'est un secteur qui est au centre de la ville, permettre de faire en sorte que la ville continue d'exister et d'être vivante pour éventuellement même construire des patrimoines de demain. Ce document, il doit être adossé à un document d'urbanisme, puisqu'on doit définir des règles de protection, des règles d'évolution, des règles de valorisation. Et ce document d'urbanisme est ce fameux plan de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine. Donc ce PSMV avait été lancé après la définition du périmètre en 1986 et en 1999, à la fois l'État et les élus, parce que c'est un travail de co-construction avec l'État, ils ont estimé, pour des raisons qui leur appartiennent, qu'il n'y avait pas lieu d'aller jusqu'à la décision finale. Donc, c'est rentré un petit peu dans l'oubli, même si le SPR continuait d'exister en tant que périmètre où il y a un intérêt à observer de près le patrimoine. Et en 2014, lorsque nous avons été réélus avec Jean-Luc Moudenc a affiché, a souhaité montrer son ambition, qui était à la fois une ambition patrimoniale et une ambition urbaine. Donc il a clairement défini dans son projet de campagne et après dans son projet d'action finalement dans le mandature, de vraiment travailler sur à la fois le patrimoine et l'urbanisme. Et le PSMV a trouvé toute sa justification dans le cadre de cette ambition. Et c'est la raison pour laquelle nous avons relancé. Alors, vous allez me dire que ça fait beaucoup de temps, parce que 2014, c'était la volonté. Nous sommes en 2024, il a fallu 10 ans. Mais il faut bien 10 ans. Alors bon, ça n'a pas démarré dès 2014, bien sûr, il a fallu travailler dessus. Mais c'est un travail de longue haleine, parce que le PSMV impose une connaissance parfaite de tous les immeubles. Il y a 4000 parcelles, je crois. Et sur les parcelles, il y a plusieurs immeubles. Donc, nous avons dû visiter la moitié.
Les recenser.
Alors, 50%, nous avons pénétré dans 50% des logements de ce secteur patrimonial remarquable pour identifier le patrimoine remarquable et le noter et le conserver de manière à ce que le règlement du PSMV puisse accompagner le développement urbain à l'intérieur de ce secteur patrimonial.
Ça veut dire que ce n'est pas seulement les façades, ce n'est pas seulement l'extérieur qui est concerné, c'est aussi l'intérieur des appartements, des immeubles, des maisons anciennes éventuellement, voilà. Du centre historique de Toulouse, parce qu'il peut y avoir un simple détail qui va suffire à faire classer l'appartement en question.
On le verra tout à l'heure, on a classé les immeubles, parce qu'il y aura un règlement traditionnel, comme les règlements d'urbanisme traditionnels, mais il y a un plan réglementaire, c'est-à-dire que sur un plan, on identifie la nature des bâtiments. C'est une légende nationale, d'ailleurs, que nous n'avons pas inventée. Tout ce qui sera sur les plans en noir seront des immeubles que l'on a considérés comme étant à protéger à l'extérieur et à l'intérieur. Les immeubles en gris sont à protéger également, mais uniquement dans leur façade, toit et les espaces communs, donc les cours, les aménagements extérieurs. Et puis en blanc, c'est ce qui peut éventuellement être soit rehaussé, soit rénové, soit éventuellement, le cas échéant, détruit, pourquoi pas. Et nous avons identifié quelques 28,5% ou 29% d'immeubles en noir, c'est-à-dire d'immeubles réellement avec un intérêt patrimonial essentiel. Alors je pense aux hôtels particuliers, donc 20%, 25% d'immeubles en gris. Et tout le reste, c'est finalement, alors il faut faire le calcul à l'envers, c'est quelques 41% qui sont des immeubles finalement qui ont peu d'intérêt patrimonial, j'entends. Hein. Ils ont un intérêt puisqu'ils abritent, ils hébergent, ils logent, mais un intérêt patrimonial moindre. Et ces immeubles, ils peuvent être modifiés, je vous dis, rehaussés ou même transformés ou démolis pour laisser la place à un peu de la construction contemporaine, puisque dans le SPR, notre objectif n'est pas de figer le centre-ville comme un musée, mais au contraire, c'est d'intégrer le patrimoine historique préservé, de l'intégrer dans la ville contemporaine, avec ses exigences et ses enjeux.
Est-ce qu'on peut dire que le PSMV est une sorte de label, et dans ce cas, il serait attribué par qui ?
Alors, ça n'est pas un label, c'est une servitude d'utilité publique, le périmètre du PSMV. C'est une servitude par l'État qui traduit par cette servitude l'intérêt patrimonial de l'ensemble de ce qui est frappé par ce périmètre. Le périmètre est défini conjointement par l'État et la collectivité.
Quand on dit l'État, c'est quoi ? C'est le ministère de la Culture ?
C'est le ministère de la Culture, oui, bien sûr.
Eh bien, merci pour toutes ces explications. Nous allons développer certains points du PSMV dans quelques minutes avec vous. Pour l'instant, il est l'heure de notre rendez-vous avec l'actualité métropolitaine. Et c'est toujours grâce à Corinne Saint-Félix qui nous a préparé son flash d'information hebdomadaire. Métropolez-vous, l'actu.
Dans l'actualité aujourd'hui, Eric, le conseil municipal de Toulouse a adopté le contrat de ville 2024-2030 de Toulouse Métropole. Ce nouveau contrat de ville a été construit à travers des rencontres participatives. Plus de 600 personnes y ont participé au travers d'ateliers, tables rondes et réunions publiques. Il s'articule autour de 7 thématiques principales, dont l'écologie urbaine et citoyenne et l'entrepreneuriat. Il concerne 16 quartiers métropolitains défavorisés, dont 12 à Toulouse. Il sera signé le 22 avril lors des 5e assises métropolitaines de la politique de la ville. 10 nouveaux partenaires rejoignent l'aventure. L'établissement public du Capitole, le TFC, le Stade Toulousain, Airbus ou encore Tisséo Voyageurs. Le dispositif d'évaluation du contrat sera également amélioré avec un suivi des parcours de vie d'habitants afin de mesurer plus concrètement ses effets. Les services de la justice investissent, eux, la prison Saint-Michel. L'État a annoncé le 25 mars sa décision d'accueillir au sein de l'ancienne prison Saint-Michel, dont il est propriétaire, les services toulousains du ministère de la Justice. Une décision qui, pour le président de Toulouse Métropole et maire de la Ville Rose, Jean-Luc Moudinc, scelle l'avenir de l'ancienne prison Saint-Michel et garantit dans le même temps sa préservation patrimoniale, tout en respectant la mise en valeur par la mairie du Castellet. Ce lieu de mémoire a été ouvert au public en 2020 et de plaider la nécessité pour Toulouse Métropole d'avoir un auditorium pour les différents acteurs toulousains de la musique, dont l'Orchestre National du Capitole fait partie. Jusqu'à aujourd'hui, les différents projets portés n'ont pu être menés à bout faute de coopération entre les différents partenaires. Et enfin, cette semaine partait à la découverte des métiers d'art sur la métropole toulousaine. Pendant quelques jours en France et en Europe, les Journées européennes des métiers d'art proposent de nombreuses animations et activités en faveur d'une meilleure reconnaissance du secteur des métiers d'art. Vous avez jusqu'à dimanche pour découvrir les nombreuses animations proposées dans le cadre des Journées européennes des métiers d'art. Vous pourrez par exemple marcher sur les traces d'Auguste l'ornemaniste et ses éléments emblématiques du bâti toulousain en manipulant des moules issus de la fabrique d'Auguste Vierebint, les visiteurs plongent dans le monde de l'ornementation des façades toulousaines. Autre rencontre cette fois avec l'atelier de restauration du patrimoine de la ville de Toulouse pour découvrir un lieu méconnu et inaccessible au grand public. Deux visites sont proposées sur les métiers de la restauration, l'une sur la conservation et la restauration de sculptures en pierre et l'autre sur la dorure et conservation-restauration de sculptures en bois doré. Toutes les animations et activités, visites, ateliers, animations sont à retrouver sur le site web officiel de l'événement.
C'était l'actualité métropolitaine vue par Corinne Saint-Félix et Annette Léniaud, puisqu'il est question de patrimoine dans cette émission. Peut-être une réaction à la deuxième information de ce flash, celle qui concerne l'ancienne prison Saint-Michel.
Alors, nous sommes ravis, nous sommes heureux de voir que la prison Saint-Michel va perdurer avec la protection de ce patrimoine quand même. Donc, va être rénovée, restaurée et finalement que le ministre de la Justice qui en était le propriétaire, moi je suis ravie qu'ils aient trouvé un usage pour eux-mêmes finalement. Moi je suis ravie aussi parce que nous avons beaucoup travaillé avec les associations de quartier sur ce projet qui est au cœur du quartier. Et c'est un projet qui donne de la dynamique à un quartier et qui revient en même temps que sa rénovation, participe de la rénovation de l'ensemble du quartier et de la requalification de ce quartier. Donc nous avions beaucoup discuté avec les habitants, nous étions arrivés, évidemment nous avions un projet ambitieux et peut-être trop ambitieux puisque nous n'avons pas réussi à faire ce tour de table qui est évoqué, mais nous avions quand même beaucoup travaillé sur l'insertion de ce projet dans le quartier. Donc ça a démarré par la rénovation du Castellet, qui maintenant est un édifice à la mémoire de la Résistance et qui est absolument superbe. Et nous avions également travaillé avec les habitants du quartier et nous avions obtenu de la part d'architectes des bâtiments de France de la souplesse pour que les habitants puissent pénétrer autour du Castellet, notamment dans les jardins. Je pense que ça pourra se réaliser, mais je suis ravie, nous sommes ravis que cette opération finalement est une issue et une issue qui préserve surtout le patrimoine et qui mettra en valeur tout cet ensemble construit qui est exceptionnel.
Alors le projet d'auditorium qu'il y a eu à un moment donné à l'ancienne prison Saint-Michel est donc définitivement abandonné, c'est ce qu'on comprend à la lecture de cette information. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir un autre projet peut-être ailleurs concernant un auditorium ?
Alors l'auditorium a été arrêté effectivement dans l'appel à manifestation d'intérêt. Nous avions dit qu'éventuellement ce serait pas mal s'il pouvait y avoir un auditorium ou quelque chose d'analogue, mais bon, il n'y a pas eu d'appel de projet dans ce sens-là. Il y a eu surtout le projet du ministère de la Justice qui s'imposait presque, si je peux dire. Mais ça n'est pas pour cela que nous avons totalement oublié et mis de côté cet auditorium qui sera un bel écrin pour cet orchestre du Capitole qui est exceptionnel. Il faudrait un bel outil. Donc nous sommes en train de chercher.
Il y a des réflexions en cours pour trouver un autre lieu.
Nous sommes en train de chercher.
Donc éventuellement construire. Voilà. Un auditorium. Eh bien, merci pour ces commentaires et ces compléments à l'actualité métropolitaine, à la deuxième information du flash de Corinne Saint-Félix. Nous revenons tout de suite au sujet de cette émission, le plan de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine remarquable à Toulouse.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
Seconde partie de Métropole et vous avec notre invitée du jour, Annette Léniaud, vice-présidente de Toulouse Métropole, chargée de l'urbanisme et des projets urbains, également adjointe au maire de Toulouse. La première question qu'on peut se poser, évidemment, c'est ce qu'implique l'entrée en vigueur du PSMV en 2025, et précisons que ce sera au printemps 2025, dans un an à peu près, c'est pas au 1er janvier. Qu'est-ce que ça va changer concrètement ?
Alors c'est effectivement notre objectif est de l'approuver en 2025, puisque là il sera arrêté d'ailleurs demain en conseil métropolitain. Donc c'est d'avoir cet outil en 2025 qui a beaucoup de vertus. D'abord, c'est un outil qui va faire connaître le patrimoine, qui va donner à voir à tous les Toulousains le patrimoine, révéler ce patrimoine historique que nous avons dans le centre-ville. Quand on parcourt toutes les rues de Toulouse et qu'on lève le nez, on a un patrimoine mais richissime et exceptionnel. Donc, mieux faire connaître ce patrimoine, ça c'est la première règle. Et puis, lui donner des outils. Alors, c'est un document co-construit avec l'ABF. Et la DRAC,
c'est ce qu'on appelle l'ABF.
L'architecte des bâtiments de France.
Ouais.
La DRAC, donc la Direction régionale des affaires culturelles. Donc nous travaillons ensemble. C'est un document financé également par le ministère de la Culture et la collectivité, Toulouse Métropole. Et c'est un document qui va montrer le patrimoine et qui va donner des règles pour à la fois le protéger, mais faire, et c'est ce que je disais tout à l'heure, faire évoluer aussi la ville. C'est pas qu'un projet patrimonial, c'est aussi un projet urbain. C'est un projet de centre-ville qui doit prendre en compte les habitants, faire en sorte qu'il y ait de la dynamique, qu'il y ait de la vie, qu'il y ait de l'économie, qu'il y ait du social, de la mixité sociale, mais qui réponde à tous les enjeux du moment en matière de changement climatique, en matière d'îlots de fraîcheur, de zones d'aération de la ville, en matière de mobilité, tout ce qui constitue un projet urbain. Donc, il doit répondre à toutes ces attentes-là. Et c'est un document d'urbanisme. Il doit être compatible avec le... C'est un peu technique, mais le PADD, c'est-à-dire le projet politique du PLUH, parce qu'on n'en fait pas un autre, c'est le même.
Voilà, oui, parce que ce qui est important tout de même, c'est qu'il y a des règles d'urbanisme qui vont être propres au PSMV, périmètre dans lequel celui qui est protégé par le PSMV, le futur PLUH, qui est toujours en cours d'élaboration, ne s'appliquera pas.
Voilà, il y a une sorte d'enclave au sein de la ville de Toulouse. Dans cette enclave, il y aura un document d'urbanisme spécifique. Le reste du territoire, c'est le PLUH qui s'appliquera. Mais l'ambition politique, le projet politique, c'est-à-dire tout ce qui concerne la nature, tout ce qui concerne les mobilités, le commerce, doit être commun aux deux documents. Mais par contre, le règlement est spécifique à ce périmètre de SPR et il donne des éléments de mixité sociale. Oui, il faut des grands appartements, il faut faire revenir les familles dans le centre-ville, donc il faut de grands appartements, il ne faut pas diviser les appartements. Il faut de la mixité fonctionnelle, donc il faut des commerces, donc il y aura des continuités commerciales. Il faut de l'activité également, il y aura de l'activité au secteur. Il faut des écoles, avec la vie que cela génère. Il faut des mobilité douce, il faut améliorer le circuit. Et puis il faut, tout ce qui est nature en ville doit être privilégié aussi, y compris dans le secteur patrimonial remarquable. On vit en ville, c'est une ville animée, où il y a des jeunes, des moins jeunes. Il faut que tout le monde puisse vivre au centre-ville, avec les contraintes que cela impose pour les uns ou pour les autres. Donc il faut faire en sorte que ce soit toujours un quartier vivant, et que toute construction qui pourrait se faire dans le secteur patrimonial remarquable soit en quelque sorte un patrimoine pour demain. Donc j'expliquais que c'est un document qui est co-construit avec l'architecte des bâtiments de France, et c'est l'architecte des bâtiments de France qui doit donner un avis conforme sur tous les projets. C'est-à-dire que c'est lui qui décide, mais nous le faisons ensemble puisque nous travaillons ensemble, nous avons identifié ensemble les contraintes de ce territoire, nous avons identifié ensemble quel était le patrimoine qui méritait d'être protégé et pourquoi, nous avons travaillé ensemble pour définir les secteurs où il pourrait y avoir des surélévations par exemple, nous avons défini ensemble ce qui était l'espace public, donc nous travaillons ensemble, donc l'avis de l'ABF ne devrait pas a priori poser plus de problèmes que cela puisque nous avons fait ce travail ensemble.
Oui, donc il y a eu ce recensement, ce diagnostic complet du patrimoine dans le secteur concerné. Donc avec les diagnostics, le PSMV a permis d'identifier et de définir aussi le patrimoine existant de façon très précise, de l'Antiquité à nos jours. Hein. Vraiment, c'est très large. Hein. Oui. Il n'y a pas que le patrimoine ancien, le patrimoine plus récent aussi. Et donc ça s'est fait sur 4 ans tout de même. Il y a eu plus de 6500 visites d'immeubles, d'intérieurs d'immeubles. Et ça a permis en fait d'établir, il y a 3 catégories d'immeubles à conserver, à protéger et à faire évoluer pour des usages contemporains. Alors ça s'est fait selon quels critères, ça? Le fait qu'un immeuble aboutisse dans une catégorie ou une autre?
C'est l'inventaire. Nous avons procédé à un inventaire sur place. Nous avons travaillé avec les sachants du patrimoine que sont l'architecte des bâtiments de France et la DRAC. Les bâtiments qui méritent d'être protégés à tout prix, c'est un travail qui a été fait avec les professionnels pour identifier. Et puis ce que nous avons découvert, parce que nous avons écrit à tous les propriétaires de logements dans ce périmètre et nous leur avons demandé à tous de nous ouvrir les portes pour pouvoir visiter l'intérieur de ces appartements. Les 6500 que vous avez évoqués, c'est exactement des logements que nous avons pu visiter. Tous n'étaient pas finalement ne disposaient pas d'un patrimoine exceptionnel, mais beaucoup. Donc nous les avons identifiés, c'est la traduction sur le plan réglementaire, ils sont en noir, donc on les repère très très facilement. Et les bâtiments gris, ben, ce sont des bâtiments qui n'ont pas d'intérieur remarquable, mais qui par contre ont des façades, ont des éléments patrimoniaux très très intéressants, et surtout aussi ont des patrimoines végétalisés ou pas, des cours, des courettes, des ornementations qui méritent d'être protégés, mais c'est l'extérieur qui est protégé et non pas l'intérieur qui ne le mérite pas. Mais tous, malgré tout, que ce soit le patrimoine à protéger dans sa totalité ou le patrimoine à ne protéger que sur l'extérieur, nous avons malgré tout réglementé ce qui se fera de manière à ne pas diviser tous ces appartements en T1, parce que c'est plus facile à louer. Puis ça génère des travaux qui peuvent être, et on l'a vu récemment, oui, qui peuvent être des sources de difficultés. Donc nous faisons en sorte que les familles puissent venir sur le centre de Toulouse, donc avec des grands appartements. Et c'est au coup par coup, lors des demandes d'autorisation de travaux, que l'ABF aura tous les outils qu'il faut pour dire oui ou pour dire non à des projets qui seront peut-être des projets excessifs.
Alors j'en venais justement à ce que ça change pour les propriétaires, pour les particuliers. Alors, propriétaire privé, ça peut être un particulier, ça peut être aussi une entreprise, bien sûr, une société ou un commerce. Qu'est-ce que ça change pour eux ? Pour les travaux, s'ils veulent faire des travaux, bah, évidemment, ils devront se conformer aux règles du PSMV, oui, s'ils sont dans une catégorie ou une autre. Mais je crois que ça change aussi les choses au niveau fiscal.
Voilà. Alors il y a deux choses. Ils doivent faire une déclaration de travaux pour toute demande de travaux à l'intérieur de l'immeuble, que l'immeuble soit en noir, en gris ou en blanc. Hein. Donc une demande d'autorisation qui est instruite par l'ABF en collaboration avec la collectivité et qui dans certains cas peut générer, parce que la règle du PSMV l'autorise, peut générer l'exigence d'un diagnostic de structure. Et on a vu récemment ce que nous ne pouvions pas faire jusqu'à présent, le PSMV, le travail qui a été fait dans le centre-ville et la connaissance que nous avons accumulée dans le centre-ville nous a incités à demander par le règlement que des diagnostics structure soient faits. Et on voit que ça, c'est un élément essentiel. Et je le dis parce que ça n'est pas les demandes d'autorisation de travaux, ça n'est pas pour dire non, forcément, mais c'est dans l'intérêt de tout le monde. C'est dans l'intérêt du propriétaire.
Pour leur sécurité.
Pour leur sécurité, mais aussi, oui, y compris des petits travaux. Une cloison qui a été démolie parce que les cloisons voisines l'ont été aussi, ou les murs l'ont été, ben, la cloison, elle devient cloison porteuse. Si on la détruit, ben, l'immeuble ne peut plus rien, ne porte l'immeuble. Donc, petit à petit, chaque travaux dans un appartement est finalement peut-être pas très important, mais peut avoir une incidence cumulative
sur l'ensemble de l'édifice.
Donc, il faut absolument que tout le monde prenne conscience que déposer une autorisation, ce n'est pas forcément une contrainte de l'administration qui va dire non. Au contraire, c'est aller demander l'opportunité de faire ou de ne pas faire. Et c'est à l'administration, c'est chargé de responsabilité. Mais l'ABF prend sa responsabilité en disant là, cette opération, ce n'est pas souhaitable qu'elle se fasse. Voilà.
Alors si les opérations sont lancées, les rénovations, fiscalement, les propriétaires peuvent avoir droit à une aide. Et ça, c'est dans le cadre de ce qu'on appelle le dispositif Malraux.
C'est la loi Malraux qui a évolué hein, dans le temps et qui aujourd'hui finance. Alors finance, c'est de la déduction fiscale à hauteur.
C'est une réduction d'impôt en fait.
Une réduction d'impôt à hauteur de 400 000 euros.
Plafonnée à
400 000. Voilà. C'est une déduction fiscale de 30% plafonnée à 400 000 euros.
Et c'est, je crois, sur une période de 4 années consécutives.
Oui, hein. Sur 4 ans, oui.
Alors, ça aussi, ce n'est pas quelque chose qui vient annuler les aides que propose déjà la mairie de Toulouse, dans certains cas, pour des ravalements de façade. Ça se cumule.
Ça se cumule, bien sûr. Le ravalement de façade, les aides ravalement de façade continuent toujours, perdurent toujours. Donc là, il n'y a aucun problème là-dessus. Alors,
ça, c'est important pour ceux qui nous écoutent. Oui, certains peuvent évidemment être concernés. Oui. Ce PSMV qui va donc entrer en vigueur courant 2025, est-ce que ça peut être une étape importante dans un éventuel dossier UNESCO de classement du centre historique de Toulouse, si ce projet reste toujours d'actualité, parce qu'on n'en entend plus trop parler?
Alors, on s'est rendu compte que l'ambition UNESCO que nous portions, en même temps que l'ambition patrimoniale que j'évoquais dès 2014, il y avait une ambition UNESCO qui était une ambition de long terme, parce qu'on est bien conscient que, puis on a vite vu que dans un court terme, c'était quasiment impossible de l'obtenir. Et nous avons aussi, dans un premier temps, obtenu un label, le label Ville d'Art et d'Histoire, qui s'inscrit dans cette logique, dans cette histoire que l'on peut raconter sur le centre de Toulouse, et qui permet de faire de la médiation. Et depuis que le label a été accordé, qui donne des financements hein, à la collectivité pour mettre en place ces outils de médiation, Il y a eu énormément de Toulousains qui ont été... D'ailleurs, les manifestations qui sont organisées ont beaucoup de succès parce qu'il y a un engouement pour le patrimoine oui. De façon générale. Mais ce patrimoine, les équipes du label, puisqu'on a l'atelier du patrimoine qui est rue de la place de la Dorade, qui a beaucoup travaillé là-dessus pour essayer de diffuser la connaissance du patrimoine toulousain. Alors, sous toutes ses formes, de façon ludique, de façon filmée, des vidéos, il y a eu beaucoup d'animations et d'énergie qui ont été déployées pour faire participer les habitants à la connaissance de ce patrimoine. Nous avons un SIAP qui va être créé. Nous sommes en train de le finaliser.
Qu'est-ce que vous appelez un SIAP ?
Un SIAP, c'est un centre d'interprétation pour l'architecture et le patrimoine. Donc, c'est un lieu de médiation, là aussi. Disons que l'atelier du patrimoine a été une petite préfiguration de ce que sera un SIAP, mais à une autre échelle sur laquelle nous sommes en train de travailler dans un proche avenir. Création d'un SIAP, donc diffusion de la connaissance. Et l'ambition patrimoniale, pour revenir à l'ambition UNESCO, elle s'est manifestée de plusieurs façons. D'abord, nous avons mieux identifié, mieux fait connaître le patrimoine déjà UNESCO. Je cite la basilique Saint-Sernin, dans laquelle nous faisons beaucoup de travaux d'embellissement, y compris la place sur laquelle
autour.
Autour, de manière à magnifier cet édifice absolument remarquable. Des gros travaux à l'intérieur, de restauration. La rosace qui va être inaugurée
à l'automne prochain.
Et puis l'Hôtel-Dieu, qui est aussi un patrimoine UNESCO, qui ne nous appartient pas.
Ils sont inscrits au titre des chemins de Saint-Jacques.
Au titre des chemins de Saint-Jacques, ce sont deux édifices inscrits patrimoine mondial. Oui. Donc l'Hôtel-Dieu, Jean-Luc Moutinque a beaucoup aidé pour qu'il puisse y avoir un financement de l'État pour la rénovation des façades. Donc on se rend bien compte, ces patrimoines maintenant sont connus parce qu'en tant que patrimoine UNESCO, des biens de chemin de Saint-Jacques. Et puis le canal du Midi, avec le Grand Parc Garonne, le canal du Midi sera magnifié, sera...
Le Grand Parc Canal.
Le Grand Parc Canal, bon voilà. Donc plusieurs actions, il y a les annales des Capitouls qui sont en cours de labellisation pour UNESCO, mais pas dans la catégorie patrimoine mondial. Et puis, il y a un objectif de long terme que l'on travaille toujours et qui est une ambition de long terme parce qu'on s'est rendu compte que les règles de l'UNESCO changent. C'est plus tous les ans, mais c'est tous les deux ans.
Et puis,
c'est peut-être
et
même
puis,
un peu plus
après. Et puis, en France, il y a beaucoup de demandes, on sait.
Il y a beaucoup en France, il y en a beaucoup dans la région. Donc, on nous a fait comprendre que...
Il fallait peut-être attendre un peu
parce que la politique de l'UNESCO, c'est plus aussi d'aider les pays émergents.
Les pays émergents,
voilà. On sait que c'est un travail de longue haleine, avec tous les outils que nous mettons en place pour mieux faire connaître le patrimoine, mieux le protéger, mieux l'identifier. Bon, c'est un énorme travail qui a toujours ce fil conducteur, ce fil rouge, le label UNESCO.
Et bien, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup Alain Tlégnaud d'être venu nous présenter le plan de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine remarquable du Centre historique de Toulouse, qui entrera donc officiellement en vigueur en 2025, sans doute au printemps. Un document de référence dont les grandes lignes sont disponibles sur le site www.metropole.toulouse.fr. Ce numéro de Métropolez-vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, très bonne fin de semaine et excellent week-end à tous.
Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.